Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez RDWA sur 107.5 FM ou sur internet rdwa.fr. Olivier de Sepibus au micro et Baptiste aux manettes, merci à toi. Alors après Elisabeth Cieslard, Émile Cieslard, Lynn Pouk, j'ai le grand plaisir d'accueillir Paca Sanchez. Bonjour.
Bonjour.
Alors tu es cueilleuse d'herbes et plasticienne.
Oui.
C'est-à-dire que ce sont deux activités que tu mènes de front.
Et oui, je suis obligée d'être cueilleuse d'herbes pour être plasticienne.
C'est quoi être plasticienne? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que d'ailleurs, on imagine bien que tu es dans les champs et
ah bah
avec
dans
un
les champs,
panier
oui.
ou dans les bois.
Je me promène. Voilà, je me promène. Je regarde les petites herbes de rien du tout qu'on n'a pas l'habitude, que nous ne voit plus. Et mon travail consiste justement à mettre en évidence ces petites herbes, ces mauvaises herbes que l'on appelle, et leur donner une aura, les mettre en majesté de façon à ce que l'on soit étonné et qu'on soit vraiment catastrophé de ne plus les voir.
Alors, cher Paca, on se connaît et je te tutoie. Tu as commencé dans ton parcours, il y a quelque chose que je trouve très étonnant, car tu as commencé à être artiste dans une décision que tu as prise alors que tu avais 50 ans. Est-ce que je me trompe?
Ouais. Oui, tu te trompes vraiment beaucoup.
Alors, vas-y.
Parce que j'ai voulu être artiste lorsque j'avais 14 ans.
C'est ça. Mais tu as osé le devenir
à 50 ans.
À 50 ans, c'est
exactement,
ça.
Exactement. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette.
Je ne sais
tu
pas.
Tu te souviens?
Non, je ne sais pas. Je pense que je suis née dans une famille ouvrière dans la région parisienne. Dans le 93, à Aubervilliers, et d'émigrés espagnols. Et rien dans ma famille me prédisposait à être artiste. Et moi, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé le beau. Et je pense, grâce à une institutrice à l'école, qui m'a complimentée plusieurs fois. Et voilà, je voulais être artiste. Et évidemment, comme j'étais dans une famille où être artiste, c'est pas un métier.
Tu connais des familles où être artiste, c'est un métier?
si, c'est un métier, parce que c'est beaucoup de travail.
Oui, c'est un métier, mais des familles qui reconnaissent cette activité.
Je ne peux pas te dire, mais la mienne, elle ne reconnaissait pas du tout. Ouais, il fallait faire un travail manuel, un travail avec ses mains. Pourtant, avec les mains, c'est aussi avec la tête. Mmh. Mais bon, on dit toujours le travail manuel. Et voilà. Donc, mais moi, donc depuis mes 14 ans jusqu'à mes 50 ans, j'ai décidé d'arrêter de travailler par des dispositions particulières de la fonction publique, puisque j'étais dans la fonction publique. Mère de 3 enfants, 15 ans de titularisation. Enfin bref, j'ai pu m'arrêter en ayant un pourcentage de ma future retraite. Et j'ai sauté le grand pas et je suis devenue enfin artiste.
C'est une décision finalement.
Bah oui, c'est une décision.
Non, il y a personne, qui dit que quelqu'un. Enfin, il y a personne qui te décide artiste. C'est une décision de soi-même.
Ah bah oui.
Soi-même.
Enfin, je pense oui, mais c'est très. Enfin, en ce qui me concerne, ça a été très paniquant parce que donc j'arrivais de Paris, je suis arrivée à Sainte-Croix en 87 et j'ai vendu mon appartement à Paris, j'ai acheté une petite maison à Sainte-Croix. Et là, je me suis trouvée à rien avoir à faire. Quoi. Je ne savais absolument pas comment devenir artiste. Pendant 6 mois, j'étais. Alors, donc, je savais faire beaucoup de choses.
Toutes ces années, tu as fait beaucoup d'ateliers.
Oui, voilà.
Tu as dû aller voir énormément d'expositions.
Exactement, j'ai fait beaucoup d'expos. J'ai appris la céramique. Je suis allée au musée des arts décoratifs. Enfin, bref, je me suis préparée. J'ai préparé le terreau pour le devenir. Lorsque je me suis trouvée à Sainte-Croix, sans projet, j'ai été six mois vraiment paniquée. Et j'ai fait un stage avec Camille Viraud, qui est un grand potier, Et ça m'a vraiment fait du bien. Donc après ce stage, je me suis mise à faire de la céramique, mais je ne voulais pas faire de la céramique utilitaire. Je voulais faire de la céramique, des sculptures en céramique, enfin des choses plutôt abstraites. Oui. Et c'est parti de là. Voilà.
Et tes premiers travaux, tes premiers travaux étaient des travaux plutôt monumentaux et avec plutôt physique, qui demandaient un travail physique plutôt fort, quoi.
Oui. Hein?
C'est ce qui caractérisait un peu, on va dire, la première partie de ton travail.
On peut dire ça. Ouais. Bon. Peut-être beaucoup de Diwas se souviennent de mes clous qui sont restés quand même beaucoup d'années, 2-3 ans, devant la déchetterie.
Que tu avais exposé précédemment à Valence.
Au musée de Valence. Ensuite, à Gigondas. C'était resté aussi pas mal de temps à Gigondas.
Alors, c'était des clous qui mesuraient combien ?
4 mètres.
4 mètres.
Enfin, de 3 à 4 mètres. Alors, c'est toute une histoire, mais je pense qu'on n'a pas le temps de vous raconter les histoires des clous. Mais donc j'avais envie de faire des choses monumentales parce que lorsque j'ai appris la céramique, c'était avec Philo Laos, un architecte sculpteur qui travaillait, enfin qui était un très très bon potier, mais en même temps qui travaillait l'acier, qui faisait vraiment de très belles sculptures. Et ce monsieur Philo Laos, c'est lui qui a fait le très bel château d'eau de Valence. Ces deux tours qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Et c'est lui qui m'a appris donc à faire de la céramique. Et j'ai vu ces sculptures et ça m'a donné envie de commencer par le grand. J'étais un peu mégalo. J'étais un peu mégalo, mais bon. C'était comme ça que je voyais ma place. Dans ce monde, il fallait s'imposer. Quoi,
peut-être s'imposer,
voilà.
Quelque chose comme ça.
Ouais. Oui, oui.
Mais en même temps, c'est intéressant de se confronter au grand, au monumental.
Oui, c'est intéressant. Bon, je vais vous raconter comment j'ai appris à souder, parce qu'en fin de compte, je ne savais pas souder. Et donc, je voulais faire de la sculpture en grand. Et je raconte cette histoire. Dans ma vieille maison à Sainte-Croix, je tombais toujours sur des clous. Je brûlais des vieilles poutres et je trouvais toujours des clous forgés qui avaient des formes extraordinaires. Vraiment calligraphie, l'écriture hébraïque. Et donc, j'ai fait une recherche sur le clou. Et je me suis aperçue que le clou, c'était un symbole protecteur. Parce qu'il y a le clou de girofle, le clou, le passage clouté, les Romains mettaient un clou devant le temple de Jupiter. Enfin bref, le clou, et donc moi j'ai toujours eu, j'aime bien faire du bien. J'aime bien porter mon travail, qu'il apporte quelque chose en plus pour mes contemporains. Si je peux, bien sûr.
En général, un artiste a cette prétention-là.
Oui, voilà. Mais c'est pas toujours. On réussit pas toujours. Oui. Donc, j'avais envie de faire des clous, des grands clous que je plantais dans le sol. On passait en dessous et les forces telluriques faisaient que ça nous gonflait. Et on avait du bonheur. Enfin bref, on avait toutes les bonnes augures possibles. Mais je ne savais pas travailler le fer, parce que je savais bien travailler la terre, mais pas le fer. Et je passais toujours en allant à Valence devant les établissements Lopez, qui étaient des métalliers. Et je me disais toujours, Lopez, moi je m'appelle Sanchez, je vais aller voir ce monsieur quand même, peut-être qu'il va pouvoir m'aider. Enfin bref, j'ai mis pas mal de temps à me décider. Et j'ai téléphoné et j'ai réussi à avoir un rendez-vous. Sa secrétaire, bien gentille, m'a écoutée. Elle m'a dit, venez voir Monsieur Lopez. Alors, je suis arrivée voir Monsieur Lopez, qui m'a écoutée et qui me paraissait un peu intéressée. Il me dit, vous savez, moi, ça m'intéresse parce que j'ai toujours vécu dans les clous. Mon père était quincaillier. Acré. J'ai dit, c'est formidable. Et donc, ça a été mon mécène, puisqu'il m'a donné tout le matériel métallique, enfin, les plaques métalliques, pour faire ces clous. Mais le problème n'était pas encore fini, c'est que je ne savais pas souder. Alors je dis, comment je vais faire ? Donc je suis allée voir l'AFPA à Valence. Je suis allée voir le directeur, je lui dis, voilà, j'ai un projet, j'ai le métal, seulement je ne sais pas. Est-ce que vous voulez, est-ce que je peux faire un stage chez vous ? Bien sûr, vous ne me payez pas, mais j'aimerais bien apprendre à souder. Et ça a été d'accord. J'ai passé 3 mois avec toute une équipe de soudeurs. J'étais la seule. C'était passionnant. C'est vraiment très beau. D'ailleurs, je conseille à toutes les femmes d'apprendre la soudure semi-auto. C'est merveilleux quand on est dans la petite cabine et qu'on voit cette coulée là, avec de toutes les couleurs. C'est vraiment très, très beau. Donc voilà, j'ai appris à souder, j'ai fait mes clous et voilà l'histoire de mes clous. Et ensuite, je suis allée voir le musée, parce que j'ai fait une maquette de mon projet. Et le musée de Valence a été d'accord. Et donc, ça s'est terminé dans les jardins du musée de Valence. Plein de clous, avec toute l'équipe de l'AFPA qui m'a aidé à les installer. Enfin bon, ça a été un travail collectif très, très intéressant.
Et alors ensuite, effectivement, je ne connais pas ton parcours en détail, mais on va parler aussi surtout de ton travail d'aujourd'hui, que tu fais d'aujourd'hui, de composition avec les plantes. À un moment donné, il s'est passé que tu es tombé malade et que tu n'as plus pu faire ce travail physique. Je crois qu'il t'a aussi interrogé sur la vie et tu t'es ouverte à une autre dimension, on va dire esthétique, qui était peut-être moins physique, peut-être plus dans la contemplation, je ne sais pas, c'est moi qui mets des idées comme ça. Mmh. Et donc là, tu as commencé à travailler sur le vivant, avec les plantes.
Et le mort aussi.
Et le mort, mais enfin...
Oui, effectivement, en 98, j'ai eu un cancer du sein qui m'a laissé un peu ébranlée, et puis surtout avec des capacités physiques qui n'étaient plus au rendez-vous. Voilà, j'avais un bras qui avait du mal qui était beaucoup plus faible, quoi. Et donc, comme je me trouvais à Sainte-Croix et que j'étais entourée d'agriculteurs, de viticulteurs, et qu'il y avait énormément je trouvais pas mal de soi-disant déchets, que ce soit la coopérative des herbes aromatiques de Vercheny, où il y avait des tonnes et des tonnes de paille de thym, de paille d'hysope, il y avait également le tilleul, les coquilles de noix, puisqu'on émondait les noix l'hiver et que les gens brûlent. Et donc je me suis dit, je vais utiliser ces matériaux. D'une part, je vais être mieux intégrée au village, puisque je vais utiliser les mêmes matériaux que mes voisins. Et en plus, dans ces végétaux, justement, qui avaient déjà vécu, c'est-à-dire où on avait extrait de l'huile essentielle, où les noix, on en a fait les cerneaux, et il me restait cette matière. Et pour moi, c'était donner une vie, prolonger la vie de ces matériaux. C'était toujours, j'aime bien avoir toujours cette pensée, enfin avoir donné du sens à mon travail, quoi.
L'usine à chagrin marche jour et nuit. L'usine à chagrin fait de gros profits. L'usine à chagrin produit tant et plus. L'usine à chagrin tourne à flux tendu. Pas besoin de stock, le chagrin s'écoule. On le fabrique et toc, on le vend, c'est cool. Mais la fabrique à Célestin, où l'on fait ces petits riens qui font que la vie pétille, qui font que la vie frétille. Un rire au fond d'un verre de vin, dans le regard d'un copain, le bleu de l'amour qui brille, et les fous rires des petites filles. Rien n'est à vendre chez Célestin. L'usine l'usine à chagrin a des succursales avec salle de bain. Où va l'argent sale? L'usine à chagrin a des actionnaires qui attendent les talbins, le cul sur la misère. Pas besoin de pub, le chagrin s'arrache en spray ou en tube, le client paie cash. Mais la fabrique à Célestin, où l'on fait ces petits riens qui font que la vie picote, qui font que la vie gigote. En rentrant au petit matin, quelques phrases de Bobin, punaisées sur la porte, et le printemps qui met ses bottes. Rien, rien n'est à vendre chez Célestin. L'usine à chagrin ne sent pas la rose, surtout les matins où le chagrin explose. L'usine à chagrin a des responsables qui se lavent les mains, la tête dans le sable. On tourne la page et le chagrin triomphe, et même il se propage et ça repart à donf. Mais la fabrique à Célestin, où l'on fait ces petits riens qui font que la vie s'affole, qui font que la vie décolle. Une vieille au fond du jardin qui demande le chemin qui mène à son école, et un ami qui tient parole. Rien, rien n'est à vendre chez Célestin, chez Célestin.
Paca, nous venons d'écouter Michel Bernard, qui est une amie à toi.
Une amie à moi qui habite Saint-Julien-Melamelette, qui écrit de très belles chansons. Donc, j'aimerais que vous l'écoutiez plus souvent, si c'est possible. Voilà, c'était un petit...
Et c'est une artiste qui... ça fait longtemps qu'elle chante.
Oui, ça fait longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent. D'ailleurs, ouais. elle est venue dans le Diwa plusieurs fois pour chanter, Michel Bernard. Ouais. Tous les gens qui aiment la chanson française, la bonne chanson française, la connaissent.
Juste avant le morceau, on évoquait donc ce recommencement que tu effectues avec les végétaux. Comment s'opère cette transformation et comment tu t'empares de ces nouveaux végétaux et que tu commences à les agencer? T'es-tu intéressé à d'autres artistes qui travaillent aussi de cette manière-là?
Oui, enfin, tout à fait au début. J'avais toujours l'idée mégalo, c'est-à-dire que je faisais des formes pleines, des volumes pleins de rafles de raisins, de tilleuls, de coquilles de noix, toujours avec cette idée de lourdeur, mais bon, je me suis vite aperçue qu'il fallait changer. Et c'est vrai que avec ce que j'avais vécu, j'ai lu beaucoup de philosophie bouddhiste. Et donc, je me suis un peu intéressée à des artistes qui s'aidaient, enfin qui utilisaient cette philosophie pour donner sens à leur travail.
Et tu as des noms en peine?
Oui, j'ai Richard Long.
Évidemment.
J'ai Amish Fulton.
Amish Fulton.
Oui. Enfin bon, c'était surtout Amish Fulton qui m'a fait vraiment réfléchir, puisque lui ne veut pas déranger la nature, c'est-à-dire qu'il marche dans la nature, il prend des photos, lorsqu'il déplace une pierre pour la dessiner, il la remet à sa place. Ou même quelquefois, lorsque la pierre est à l'ombre, il la remet au soleil. quand c'est une pierre qu'il trouve très jolie. Enfin bref, il a une attitude avec notre environnement, la nature, qui est qui la considère comme un être humain, quoi. Et donc ça m'a vraiment vraiment beaucoup touchée. Et puis également qu'il reproche aux sculpteurs qui font des œuvres monumentales justement tout le comment on dit le le carbone induit, c'est-à-dire les grands camions, l'essence, le mazout,
la main-d'œuvre.
Et tout ça, c'était vraiment quelque chose que je ne pensais pas avant. Et grâce à ma maladie, où j'ai pensé mourir, ça m'a... j'ai fait un retour sur moi-même et je me suis dit, oui, il faut être beaucoup plus modeste, beaucoup plus respectueux de tout ce qui nous entoure.
Alors c'est vrai, dans cette lignée qu'on pourrait appeler l'histoire du Land Art, qui a commencé dans les années 60, effectivement au début les artistes n'avaient pas de préoccupations écologiques. Et c'est venu, c'est venu au fur et à mesure dans les années 80.
C'est Simpson qui a fait
son fameux Spiral Jetty avec des bulldozers. Bon, avec, aujourd'hui, ça serait plus possible.
Voilà.
Tu étais influencé par intéressé par d'autres artistes qui t'ont en tout cas aidé à trouver toi ta propre voie. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu collectes des matériaux, on va dire, naturels. Effectivement, dans la nature, il faut avoir beaucoup d'attention de ce que je connais de ton travail, parce qu'effectivement, la forme, une fois qu'on l'enlève et qu'on est arrivé à l'identifier et à la mettre de côté, il y a un travail, effectivement, de voir, je pense, passer beaucoup de temps à récupérer parce que...
Oui, mais parce que tu... Attends, il faut que je te réponde déjà.
Oui, vas-y.
Parce que c'est vrai que le fait d'être à la campagne, d'être toujours environné...
Environné.
Ah oui, bon, c'est pas beau joli.
Pourquoi non, c'est pas très joli, non.
Entouré. D'être, oui, voilà, d'être entouré. Toujours... au centre, entouré de végétaux, ça m'a fait les regarder avec attention. Et puis, j'étais étonnée par leur beauté. Et donc, c'est vrai que mon travail consiste à la promenade. Et lorsque une herbe me fait signe, par sa forme, par l'intérêt, une curiosité, je l'accueille et puis je l'amène avec moi dans mon atelier et je le travaille pas tout de suite, c'est-à-dire que je la laisse, je vis très longtemps avec la présence de ce végétal. J'imagine sa fonctionnalité. Si elle peut s'accrocher toute seule, si elle oppose une résistance qui la rend cassante, donc j'essaye de voir comment ne pas la casser. Enfin bref, disons que je vis très longtemps avec les végétaux pour savoir comment je vais les utiliser sans les tordre.
Sans les tordre.
Voilà, sans les tordre, sans les casser, sans les laisser au maximum comme je les ai cueillis, mais en utilisant leurs possibilités. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on devrait faire avec les enfants à l'école.
Et alors, une de tes premières œuvres, c'est avec des pissenlits, je crois.
C'est-à-dire qu'un jour, j'ai trouvé une boule de graines de pissenlits, comme on
en
voit.
On a l'habitude de voir.
Et puis, je l'ai ramenée dans mon atelier. Puis, je me suis dit, c'est tellement beau. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça reste? Donc, j'ai mis un peu de laque dessus. Et puis, je l'ai laissé comme ça. Et puis, je me suis aperçue que ça tenait un an, deux ans, sans que ça bouge. Oh, j'ai dit, voilà, j'ai trouvé quelque chose. Donc, depuis, je fais des œuvres vraiment importantes avec ce petit chose de rien du tout.
Alors, dis-nous l'importance à Anduze, à la bambouserie d'Anduze. Ouais. Donc, c'est une surface qui mesure combien de mètres?
C'est-à-dire qu'on m'a donné la possibilité de faire... C'est pareil, un rêve. Je voulais faire une grande œuvre avec ces petites boules de graines de pissenlit. Et donc, j'ai eu la possibilité de travailler dans la serre, dans une des serres de la bambouserie. Et cette serre mesure 12,50 mètres sur 3 mètres à peu près. Et j'ai rempli de boules de graines de pissenlit. Et je pense que
Tu te souviens combien tu en as collecté?
Je ne sais pas. Parce que tout ne marche pas. Quand tu en collectes, mais quelquefois elles ne s'ouvrent pas ou elles ne sont pas belles. Enfin bref, tu prends que celles qui sont les plus jolies. Et donc, je ne sais pas, j'ai dû en collecter 3000, quoi. Et j'étais toute seule, comme une grande, à faire ça. C'était un travail, je vous assure. Mais je crois que les gens, ça a duré 6 mois. Alors, c'est vrai qu'on ne pouvait pas entrer dans la serre. On voyait tout autour, par-dessus. Donc, le vent s'était protégé. Mmh. Mais au bout de 6 mois, c'était vraiment presque comme au départ. Et ce qui était intéressant, c'est que pendant les 6 mois, il y avait des petites graines qui étaient... Vous savez, dans les serres, quelquefois, dans la terre, il reste des petites graines. Donc, il y avait des graines qui...
D'autres
plantes. Ah oui. Et donc, qui se couraient entre mes petites graines de pissenlit. C'était vraiment très beau.
Alors, voilà. J'ai pas eu la chance de voir
cette installation.
Non, pas en vrai, mais je l'ai vu en photo. Ouais. Et je ne te connaissais pas encore. Et j'avais été vraiment sidéré.
Oui, je pense.
Parce qu'il y a une sensation d'une telle fragilité... que c'est vraiment l'œuvre la plus éphémère et la plus fragile qu'on puisse imaginer. Et avec une force, une puissance, avec une puissance de présence qui était assez...
Moi, justement, je pense que les gens qui ont vu cette œuvre à la Bambouseraie, je pense qu'ils ont tous été choqués. Impressionnés.
Étonnés.
Ils se sont... Et justement, je crois que les gens, en voyant... cette beauté, parce que moi, j'y suis pas pour grand-chose, puisque la boule en elle-même, elle est très belle. Et je pense qu'ils se sont... ils se sont identifiés à cette petite boule dans leur fragilité. Mmh. Et qu'on est là aujourd'hui, on vit, on est beau généralement, tous les êtres sont beaux. Et du jour au lendemain, ou de la minute à une autre, on peut... comme dans une boule de graines de pissenlit, on souffle et puis il n'y a plus rien. Mmh. Voilà, et je pense que ça nous donne... Je pense que quand on réfléchit à au côté éphémère de la vie, au côté éphémère de la beauté, de toute chose, on devrait l'utiliser à bon escient, cette vie, et faire des choses jolies. Mmh. Ne pas admettre la vie... la vie triste et la vie...
Les passions tristes.
Les passions tristes.
Tu connais ça, ouais, les passions tristes.
Voilà, il faudrait vraiment faire de notre... Le court moment de notre vie quelque chose de joli.
Chacun, enfin, ceci dit, sur la symbolique du pissenlit qui s'est fait, enfin, oui. Je ne sais pas comment dire... C'est plutôt pour... ce sont des graines qui partent au vent. Elles vont se replanter.
Oui, mais moi...
Ce n'est pas une disparition, c'est une renaissance.
Oui, oui.
C'est une renaissance. Mais on a compris tout à fait force.
Voilà.
Et de toute façon, toutes les œuvres que je connais de toi et que j'ai vues par la suite, elles ont cette ambiguïté où le moment que l'on voit, il y a une telle fragilité que... On se tient, en la regardant, en la voyant, on se trouve en équilibre. On se trouve dans un équilibre extrêmement fragile et on s'identifie dans cet équilibre. Et là, il y a un moment esthétique, enfin, moi, que je prends pour ça.
Mais qui est très profond. Et les gens se retrouvent dans leur fragilité. Et je te remercie beaucoup parce que tu as bien compris mon travail.
Un pensiero nemico di pace, un pensiero nemico di pace, lasciate il popolo vivere in pace, lasciate il popolo vivere in pace. Oh, c'è la paura di una pancia di te. Un pensiero nemico di pace, un pensiero nemico di pace, lasciate il popolo vivere in pace. Di te.
si rigido impero, un bel tempo più tempo non è.
Nous écoutions Cecilia Bartoli sur un de tes choix, cher Paca.
Merci.
Tu exposes régulièrement depuis combien de temps ?
Depuis 1990, j'ai commencé et j'ai toujours exposé.
Ouais. Et comment ça se passe ? Ce sont plutôt des lieux qui t'appellent ou c'est toi qui réponds à des appels à projets ?
Non, c'est plutôt des lieux qui m'appellent. Ça s'est toujours fait comme ça. Mmh. Ouais. Mmh.
Et sur les compositions que tu réalises, j'avais vu à Paris une exposition dans une galerie. Mm-hmm. Alors ce sont des tableaux.
Des boîtes.
Tu peux un peu arriver à nous décrire.
Mm. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on expose en galerie, c'est un problème. C'est très bien, mais c'est un problème avec mon travail. C'est que c'est fragile et que les galeries, elles aiment gagner des sous. Donc, il fallait trouver la solution. Il fallait trouver la solution et la solution, c'était de les mettre dans des boîtes, mmh. des boîtes très très belles, hein, qui sont faites d'ailleurs, puisque j'ai le micro, je vais en profiter, par l'atelier Carcavel à Cray. Et comment Fred fait des très très belles boîtes. Donc, si vous cherchez un encadreur, allez-y. Donc je mets mon travail dans des boîtes et on appelle ça des jardins secs un peu. Personnellement, j'aime pas trop parce que l'importance de mon travail, il faut qu'on soit vraiment devant les végétaux. Il faut vraiment qu'on les touche presque. Mmh.
Et que
la vitre, ouais. Ça perde. Et donc là, je recommence, je fais une expo. Mmh. Je fais une expo 3 jours à Paris dans une expo privée. Et là, je renoue avec les œuvres sans boîte directement sur le mur.
Et donc, tu peux nous donner les dates et le lieu ?
Oui,
on les rappellera.
Oui. Alors, les dates, c'est donc le 11, 12, 13 mai. Et le lieu, c'est à Paris, le 3 rue du 29 juillet, dans le premier. Voilà.
Organisé par qui ?
Par une amie qui s'appelle Eliane Fievet. Et j'ai une autre expo au mois de juin.
De chez nous, oui.
Ben oui, très proche de chez nous, puisque c'est à Piégros-Laclastre, à la galerie Inprint, dans le Vieux Village. Le vernissage, c'est le samedi 16 juin.
Bon.
Mais j'espère que la radio vous en reparlera
oui,
à l'occasion.
Oui, tu m'envoies un mail et on fera suivre. Quand tu agences les matériaux, qu'est-ce que tu cherches dans la forme que tu...
Je cherche rien.
Oui, voilà.
À vrai dire, je cherche rien. Voilà. Comme je vis avec ce qu'on disait tout à l'heure, comme je vis avec le végétal,
dans la sculpture.
C'est le végétal.
C'est, ouais.
comme je ne veux pas le contrarier, c'est le végétal qui me guide. C'est-à-dire que je laisse une grande place au hasard. Hein, c'est vraiment, on dit le hasard objectif, mais j'y crois. Et c'est souvent vraiment très esthétique. Parce que je cherche, enfin, quand je fais une œuvre, je ne peux pas recommencer, je ne peux pas en faire des séries. Ouais. Ou alors, il me faudrait en ramasser beaucoup. Mais bien souvent, je cueille qu'une petite touffe du végétal que j'ai trouvé. Donc, je fais une œuvre avec ce que j'ai, pas plus.
Est-ce que tu travailles avec l'idée de l'in situ, c'est-à-dire que tu utilises les matériaux que tu trouves sur place ?
Sur place. Oui. Ben, j'en ai fait in situ, mais là, ça fait un moment que je n'en fais plus.
Et en général, quand tu fais une exposition, tu peux la transporter, l'œuvre, parce que si c'est si fragile que ça, qu'elle vaut pour le moment de l'exposition et après, elle est détruite parce que c'est trop fragile ?
Non, j'essaye de faire des œuvres en kit. Voilà, je fais IKEA.
D'accord.
IKEA.
On lance un appel.
Non, là, tu couperas. Parce que ce n'est pas le moment de leur faire de la pub. Non, c'est des œuvres que je monte sur place. Par exemple, je fais des bas-reliefs avec des tiges de lavande et puis des petits fruits de bardane. Et les petits fruits de bardane, c'est ce qui a influencé, enfin, ce qui a été étudié pour inventer le velcro. Le velcro, c'est vraiment un enfant du fruit de bardane qui s'accroche. Et puis on en met dans les cheveux des filles, quand ils ne sont pas gentils. Et donc, avec ce système d'accrochage, de petites boules comme ça et puis mes tiges, j'arrive à faire des formes géométriques, mais je peux en faire 5 mètres sur un mur, quoi. C'est vraiment très, très esthétique, très beau et tout simple. Mais le tout, c'est de trouver ce végétal pouvait me donner cette possibilité. Voilà, c'est ça que j'aime. Et quand je trouve une possibilité comme ça, je suis la plus heureuse des femmes.
C'est un grand plaisir. Bien, merci, Paca.
Ben, c'est moi qui vous remercie tous les deux pour vos beaux sourires. J'espère que les auditeurs vont être aussi souriants derrière
leur... On les entend, les sourires.
Voilà, c'est bien.
Merci à toi d'être venu. Et j'annonce là, dans ces jours actuellement, entre le 11 avril et le dimanche 16 avril, l'exposition d'Émile Siezlar à la salle Joseph Reynaud, entre 14h et 18h, une exposition qui s'appelle Couleurs de lumière, couleurs des étoiles.
Non, musique des étoiles.
Ah pardon, merci Baptiste. Une exposition très étonnante et je vous invite à venir avec vos enfants découvrir son travail. Merci à toi Baptiste d'être aux manettes et à bientôt.